Bonjour, mes frères. Il y a probablement certains jours dans votre vie dont vous vous souvenez particulièrement. Certains sont bons, d'autres mauvais. Prenez un moment pour penser à ceux qui vous ont marqué. Vous vous souvenez peut-être de votre premier jour à l'école primaire, à la maternelle, par exemple. Vous vous souvenez peut-être de votre dernier jour d'école, au lycée ou à l'université, lorsque vous avez dit au revoir à vos anciens amis, en vous demandant où la vie les mènerait. Si vous êtes assez âgé, vous vous souvenez probablement où vous étiez lorsque les tours se sont effondrées le 11 septembre. Vous vous souvenez certainement du décès d'un être cher. Cela reste gravé dans votre mémoire. La naissance d'un enfant. Peut-être un accident de voiture ou une autre tragédie. Cela reste gravé dans votre mémoire. Peut-être que vos parents ont divorcé quand vous étiez jeune. Peut-être s'agit-il d'un événement ou d'un prix que vous avez remporté. Quoi qu'il en soit, certains jours restent gravés dans notre mémoire. Et l'un d'entre eux, pour beaucoup d'entre nous, moi y compris, est notre premier sabbat, un jour très spécial. Il y a une chose qui s'est produite lors de mon premier sabbat et dont je me souviendrai toujours. Cela m'a beaucoup aidé, et cela m'aide encore aujourd'hui. L'homme qui est venu me chercher pour m'emmener au service religieux, assis sur le siège passager de son minibus, m'a dit: ne t'attends pas à trouver des gens parfaits. Juste des gens qui cherchent à devenir parfaits. Cela m'a beaucoup aidé. C'est toujours vrai aujourd'hui. En tant que peuple de Dieu, nous cherchons à devenir parfaits, mais nous n'y sommes pas encore parvenus. Tout le monde a un premier sabbat, mes frères et sœurs. Tout le monde a ce premier sabbat mémorable. Encore une fois, cela pourrait être votre premier sabbat. Cela pourrait être votre millième sabbat. Mais il y a certaines choses, lorsque nous entrons pour la première fois dans l'Église de Dieu, qui, si nous les apprenons et les saisissons, nous serons extrêmement bénéfiques à mesure que nous progressons dans notre cheminement chrétien. Aujourd'hui, nous allons parler de certaines leçons qui sont nécessaires pour les nouveaux venus dans la voie de Dieu, mais qui sont tout aussi nécessaires, tout aussi applicables et tout aussi utiles pour ceux qui suivent la voie de Dieu depuis des décennies ou plus. Nous pourrions commencer n'importe où, mais nous allons commencer ici. Le premier point est que vous êtes ici, je suis ici, nous sommes ici dans un but global très important. Ce n'est pas comme n'importe quelle autre église ou organisation sur Terre. Nous sommes ici dans un but très précis. Il y a quelque chose que nous essayons d'accomplir en vivant de cette manière. Il y a quelque chose que Dieu attend de nous en vivant de cette manière. Ouvrez votre Bible au chapitre 6 de Matthieu. Matthieu 6. D'une certaine manière, c'est probablement de là que proviennent les paroles de sagesse que j'ai entendues lors de mon premier sabbat. Nous le verrons ici, Matthieu 6, verset 25. C'est pourquoi je vous dis Christ, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou boirez, ni pour votre corps, de quoi vous vous vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Ce à quoi nous participons, ce à quoi nous avons été appelés transcende le physique, transcende les besoins ou les aspirations physiques, explique Christ. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Si Dieu peut maintenir le contrôle sur l'écosystème, s'il peut apporter l'équilibre au monde naturel, il peut certainement prendre soin du summum de sa création, l'être humain. Votre Père céleste les nourrit. N'êtes-vous pas bien meilleur qu'eux? Qui d'entre vous, en s'inquiétant, peut ajouter une coudée à sa taille? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez les lys des champs, comment ils croissent, ils ne travaillent ni ne filent. Et pourtant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. L'humanité pouvait tisser des tissus, créer de beaux textiles, comme ceux dont Salomon se parait, mais Dieu dit, ce que vous pouvez faire de vos mains n'est rien comparé à ce que je peux faire dans la nature, et je fais en sorte que la nature fonctionne parfaitement, alors ne vous inquiétez pas pour ces choses. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous habillera-t-il pas à plus forte raison, ô vous qui avez peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas, en disant, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi nous vêtirons-nous? Ces préoccupations matérielles sont toujours nécessaires à prendre en compte, toujours nécessaires pour vivre une vie physique, mais nous sommes appelés à quelque chose de plus grand. Car toutes ces choses, les païens les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Il y a des gens sur terre qui cherchent à être comme Dieu. Christ a dit ailleurs, « Soyez parfaits, devenez parfaits. » Nous recherchons la justice de Dieu. Nous recherchons le royaume de Dieu. Nous ne sommes pas encore dans son royaume. Nous n'avons pas encore son caractère, mais c'est pour cela que nous sommes ici. Et si nous sommes nouveaux, nous devons garder cela à l'esprit. Et si nous ne sommes pas nouveaux, nous devons garder cela à l'esprit. Cherchez d'abord, que ce soit votre premier sabbat, votre millième sabbat, peu importe depuis combien de temps vous suivez le chemin de Dieu, c'est ce que nous recherchons d'abord, le royaume de Dieu et sa justice, son caractère, sa nature, car nous cherchons à entrer dans sa famille. Les nouveaux venus doivent apprendre à le faire. Les anciens doivent se rappeler de le faire et continuer à le faire. Si vous êtes récemment entré dans l'Église de Dieu, Dieu a commencé à ouvrir votre esprit par la vérité. Vous avez vu certaines choses dans la Bible. Vous avez lu la littérature. Vous avez regardé certaines émissions. Peut-être avez-vous consulté un ministre pendant un certain temps avant d'être invité. Et vous avez fait le pas de venir aux offices. Merveilleux. Crucial. Absolument nécessaire. Mais ne retardez pas la prochaine étape, surtout compte tenu du peu de temps dont nous disposons. Car, encore une fois, nous sommes ici dans un but précis. Jean chapitre 3. Monsieur Pack vient de parler des personnes qui sont encore baptisées dans l'Église de Dieu, qui ont encore une grande opportunité. Jean chapitre 3, verset 1. Il y avait un homme parmi les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit vers Jésus, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Le sujet de l'entrée dans le royaume de Dieu, de la recherche du royaume de Dieu avant tout, est donc clairement abordé ici. Comment faire cela? Comment pouvons-nous faire cela? Christ l'explique à Nicodème. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Nous étions dans un sac rempli d'eau, le liquide amniotique, lorsque nous sommes nés de l'eau, peu importe le nombre d'années qui se sont écoulées depuis pour chacun d'entre nous. Mais nous devons également naître de l'esprit. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Or, aucun d'entre nous n'est encore esprit. Nous pouvons avoir l'esprit de Dieu en nous, ou l'esprit de Dieu peut agir en nous, si nous ne sommes pas encore baptisés. Mais le but est de naître une seconde fois, de naître de nouveau dans ce royaume de Dieu. Ne t'étonne pas que je t'aie dit, il faut que tu naisses de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il ne vient ni où il va. Il en est de même de tout homme qui est né de l'esprit. C'est notre but. C'est votre but si vous êtes nouveau dans l'Église de Dieu. C'est un but universel. Mais pour atteindre cet objectif, il y a quelque chose que nous devons faire dans cette vie. Si vous entrez maintenant dans l'Église de Dieu, ici, à la fin, cela devrait être au premier plan de nos préoccupations. Nous ne voulons pas prendre cette décision à la légère. Nous ne voulons pas prendre cette décision à la va-vite. Mais nous devons être concentrés, y réfléchir, y penser, en discuter si nécessaire. Évidemment, lorsque nous franchissons cette étape, nous donnons des conseils à ce sujet. Mais si vous avez des questions, posez-les à votre pasteur. Notre objectif est de naître de nouveau, mais avant de pouvoir naître, nous devons nous repentir et être engendrés, conçus. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, verset 22. Homme d'Israël, écoutez ces paroles, dit Pierre à la Pentecôte, Jésus de Nazareth, cet homme que Dieu a accrédité parmi vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a accomplis par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Ils étaient là. Ils en ont été témoins. Ils n'avaient aucune excuse. Lui, livré par le dessein arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez prise, et par des mains impies, vous l'avez crucifié et tué. Les humains pécheurs avaient besoin d'un sauveur. Nous n'étions peut-être pas là à ce moment-là et nous n'avons pas été complices de la même manière que ces hommes, mais nos péchés ont entraîné la nécessité de la mort de notre Sauveur. Nos péchés, vos péchés, mes péchés ont rendu nécessaire la mort du Christ. Dieu l'a ressuscité, après avoir rompu les liens de la mort, car il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. David dit en effet à son sujet, « Je voyais toujours le Seigneur devant moi, car il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. C'est pourquoi mon cœur s'est réjoui, et ma langue a exulté. De plus, ma chair reposera dans l'espérance. Car tu ne laisseras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton saint voie la corruption. Il est mort, mais il était sans péché, et il a été ressuscité comme notre grand prêtre, comme médiateur, continuant à nous aider même après sa mort, travaillant avec le Père, qui est bien sûr à la tête de tout le plan, en notre faveur. Tu m'as fait connaître les chemins de la vie. Tu me combleras de joie par ta présence. Ô mes frères, laissez-moi vous parler librement du patriarche David, qui est mort et a été enterré, et dont le sépulcre est parmi nous jusqu'à ce jour. Étant donc prophète, et sachant que Dieu lui avait juré par serment que, du fruit de ses reins, selon la chair, il ferait lever Christ pour s'asseoir sur son trône, un descendant direct de David. Il a vu cela d'avance et a parlé de la résurrection du Christ, disant que son âme n'était pas laissée dans le séjour des morts et que sa chair ne voyait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, dont nous sommes tous témoins. Élevé donc par la droite de Dieu, ayant reçu du Père la promesse du Saint-Esprit, il a répandu ce que vous voyez et entendez maintenant. Le sujet était la réception du Saint-Esprit. Le sujet était la reconnaissance de notre besoin de repentance. Le sujet était la reconnaissance de notre besoin d'un Sauveur. C'est la première chose que Pierre a prêchée à la foule présente à la Pentecôte. Car David n'est pas monté au ciel, mais il a dit lui-même, Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. En entendant cela, ils eurent le cœur transpercé, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres. Une question qui est dans l'esprit de tous les nouveaux venus dans l'Église de Dieu, qui devrait être dans l'esprit de tous les nouveaux venus dans l'Église de Dieu, lorsqu'ils réalisent qu'ils ont besoin d'un Sauveur, lorsqu'ils réalisent qu'ils ont besoin d'entrer dans le royaume de Dieu. Et cette question est, hommes et frères, que ferons-nous? C'est merveilleux de venir écouter la vérité de Dieu le jour du sabbat, mais que ferons-nous à ce sujet? C'est ce que ces hommes voulaient savoir. C'est ce que nous devons savoir. C'est ce que je voulais savoir lors de mon premier sabbat, et toutes les autres personnes baptisées, peut-être pas lors de leur premier sabbat, mais c'est ce que je voulais savoir dès le début et ce que toutes les autres personnes qui finissent par se faire baptiser veulent savoir. Que dois-je faire de cette précieuse connaissance que Dieu m'a donnée? Et Pierre dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous serez engendrés par le Saint-Esprit, dit-il. Et grâce à cet engendrement, vous pourrez naître dans le royaume de Dieu, le but ultime de notre présence ici. Donc, si nous sommes nouveaux dans l'Église de Dieu, mes frères, le temps est court. Concentrez-vous sur l'entrée dans le royaume de Dieu, mais reconnaissez que pour entrer dans le royaume de Dieu, la repentance, le baptême et la réception du Saint-Esprit sont essentiels. Et si nous sommes sur le chemin de Dieu depuis longtemps, quelle que soit la durée, il est essentiel de recevoir continuellement le Saint-Esprit. Nous sommes renouvelés jour après jour. Nous devrions demander à Dieu davantage de son Esprit jour après jour. Après tout, c'est sa justice, sa nature. Nous l'utilisons pour accomplir des œuvres qui plaisent à Dieu, pour vivre en accord avec sa volonté. Sans ce Saint-Esprit, nous ne pouvons pas vivre comme Dieu le souhaite. Nous ne pouvons pas devenir ses enfants. Deuxième grande leçon à retenir si vous êtes nouveau dans l'Église de Dieu ou si vous suivez le chemin de Dieu depuis longtemps, construisez des liens de fraternité. C'est crucial, crucial. Construisez des liens de fraternité. Ceux qui suivent le chemin de Dieu depuis un certain temps savent qu'en fin de compte, les frères, vous devenez plus proches des frères que de votre famille de sang. Vous êtes unis dans un même but. Nous avons le même objectif. Nous recherchons le même royaume. Nous menons le même mode de vie. Cela ne veut pas dire que nous devons nous éloigner de notre famille terrestre. Ils ne comprennent tout simplement pas encore ce que nous faisons. Ils comprendront. Nous leur apprendrons. Et cette proximité existera alors entre nous et eux aussi. Mais pour l'instant, nous construisons des liens de communion avec les frères, avec les autres membres de l'Église de Dieu. La communion nous aide à grandir. Hébreux chapitre 10. Nous avons vu cela le dernier sabbat, mais regardons-le à nouveau. Hébreux chapitre 10, verset 19. Ayant donc, frères, l'assurance d'entrer dans le sanctuaire par le sang de Jésus, par une voie nouvelle et vivante, qu'il a consacrée pour nous, à travers le voile, c'est-à-dire sa chair, et ayant un souverain sacrificateur sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la pleine assurance de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure, ses eaux baptismales. Retenons fermement la profession de notre foi, sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Et considérons-nous les uns les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Lorsque nous passons du temps avec d'autres frères, je comprends que certains frères sont éloignés, mais heureusement, nous disposons de la technologie. Lorsque nous passons du temps avec des personnes qui partagent les mêmes idées, nous avons des conversations qui nous aident dans cette quête du royaume. Nous avons l'occasion de voir d'autres personnes faire du bien à leurs prochains, ce qui nous stimule et nous incite à faire de même. Tu sais quoi, je veux servir de cette manière, ou tu sais quoi, je peux peut-être aider telle ou telle personne. Ce n'est pas sorcier. Il existe d'autres moyens d'être stimulé. Par exemple, un monsieur et moi vivons de part et d'autre d'une dame qui a besoin d'aide pour déneiger, et il a tendance à me devancer. Et cela me stimule un peu quand cela se produit. Cela me donne envie d'y aller avant lui, ou au moins en même temps que lui. Parfois, nos exemples sont le meilleur moyen de stimuler les autres. Il ne s'agit pas nécessairement d'aller voir quelqu'un et de lui dire, « Vous savez, j'ai remarqué beaucoup de problèmes chez vous. On pourrait peut-être aller déjeuner ensemble et en discuter dans une ambiance conviviale. » C'est une question de tact, de diplomatie. Il arrive parfois qu'il faille dire quelque chose de difficile à quelqu'un. C'est généralement le rôle du pasteur, mais il y a de rares cas où quelqu'un dépasse les bornes et où il faut lui dire quelque chose. C'est de l'amour. Cela fait partie de la communion fraternelle, en quelque sorte. Proverbe 27. Proverbe 27, verset 17. Le fer aiguise le fer, et un homme aiguise le visage de son ami. Si nous sommes entourés de nos amis à l'église, nous pouvons nous aiguiser les uns les autres. Si vous avez déjà aiguisé un couteau, un ciseau, une hache ou tout autre outil coupant, peut-être même une lame de tondeuse à gazon, vous avez aiguisé tous ces outils. Vous pouvez utiliser, s'il s'agit d'un couteau, vous pouvez utiliser une pierre à grain mille. Ou peut-être utilisez-vous une lime fine pour certains outils. Si la lame est vraiment rugueuse, vous utiliserez peut-être une lime grossière. Ou si quelque chose nécessite vraiment un travail important, vous pouvez utiliser une meuleuse d'angle ou une meuleuse d'établi. Mais si vous avez déjà fait ce genre de travail, vous savez qu'il est très facile de détruire une lame. Vous pouvez très facilement détruire un tranchant en appliquant trop de chaleur, en étant négligent. Mais si vous affûtez avec soin et n'enlevez que ce qui doit être enlevé, sans plus, vous pouvez repartir avec un nouveau tranchant, un nouvel outil. Si nous sommes trop durs avec les gens, nous ne les affûterons pas, nous pourrions les endommager. Il faut trouver un équilibre en toutes choses. Il y a un temps pour être une lime et un temps pour être une meuleuse d'angle. Une autre façon d'envisager ce verset. Pensez à vous affûter les uns les autres par la conversation, le service, l'édification, le tact. Il ne s'agit pas seulement de faire contrefaire, bam, bam, de cliquetis d'épée ou quoi que ce soit de ce genre. J'espère avoir enrichi votre perspective sur ce verset. Éphésiens chapitre 4. Je suppose qu'une pierre à grain mille n'est pas exactement du fer, mais vous pouvez, bien sûr, aiguiser le métal avec du métal. Vous comprenez le sens. Éphésiens chapitre 4, verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier du Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, avec toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres dans l'amour. Nous ne voulons pas être autoritaires. Nous voulons nous supporter les uns les autres dans l'amour. Nous voulons être doux avec les autres. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. S'efforcer signifie agir rapidement ou faire des efforts. Nous devons faire attention à la manière dont nous communiquons avec les autres et les traitons. Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes tous engagés dans le même voyage. Nous pouvons nous édifier les uns les autres, renforcer la récompense de chacun, renforcer les chances de chacun d'entrer dans le royaume. Ou, si nous sommes négligents, nous pouvons nous détruire les uns les autres. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. C'est très clair. Lorsque les gens affirment que le corps pourrait être divisé, peu importe où vous vous tournez, il est facile de trouver la preuve du contraire. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et par tous, et en vous tous. Mais à chacun de nous est donnée la grâce selon la mesure du don de Christ. La communion fraternelle est cruciale. Que ce soit votre premier sabbat, notre premier sabbat, ou notre centième sabbat, ou n'importe quel autre entre les deux ou au-delà. La prochaine chose que nous aimons souligner, nous ne la mentionnons pas nécessairement. Certaines d'entre elles ne sont pas mentionnées lorsque nous invitons des gens. Ils viendront les voir. Ils viennent les voir comme nous l'avons fait et continuons de le faire. Une chose que nous recherchons, que nous prenons soin de rechercher, presque au-delà de toute autre considération, c'est la capacité d'apprentissage. La capacité d'apprendre. Cette personne est-elle capable et disposée à apprendre? Capable et disposée à apprendre. Car si elle ne l'est pas, elle n'apprendra pas les choses de Dieu. Elle ne pourra pas rechercher le royaume de Dieu. Elle n'écoutera pas comment devenir Dieu. Et elle échouera. C'est une vie d'apprentissage. Je ne révélerai jamais rien de personnel ou de confidentiel provenant de ces conversations lorsque je travaille avec des personnes intéressées par l'Église de Dieu. Mais récemment, j'étais au téléphone avec un monsieur charmant, intelligent, vif d'esprit. Mais il voulait m'expliquer que les États-Unis sont les Frames et la Grande-Bretagne est menacée. Et j'ai très vite compris que peu importait les preuves que je lui apportais. Il croyait cela. Et j'ai dû lui expliquer que vous compreniez qu'il s'agissait d'une organisation unifiée. Vous ne pouvez pas dire ce genre de choses pendant les offices. Vous croyez manifestement cela au point de vouloir m'enseigner et de ne pas vouloir entendre mon point de vue. Je ne pense donc pas que vous seriez heureux ici, et nous ne serions pas heureux non plus si vous étiez ici. Nous avons convenu d'être en désaccord et sommes passés à autre chose. Quelque chose d'aussi fondamental et facile à expliquer, d'une certaine manière insignifiante, mais très important. Mais d'un autre côté, dans le grand schéma des choses, insignifiant, le nom qu'une certaine tribu porte en termes d'identité moderne. Si quelqu'un se focalise là-dessus, quelle sera la prochaine chose sur laquelle il sera en désaccord? J'ai de grands espoirs pour cet homme. Nous avons simplement convenu d'être en désaccord. Il n'est manifestement pas appelé en ce moment. Il peut avoir l'impression de l'être, mais de notre point de vue, il ne l'est pas. Il n'était pas réceptif à l'enseignement, et je ne pouvais donc pas, en toute conscience, l'inviter aux offices. Proverbe 26. Nous étions juste à 27. Revenons à 26. C'est le symptôme d'un problème beaucoup plus vaste. Si Dieu révèle une vérité à une personne comme celle-là, alors je suppose qu'il n'agit pas par l'intermédiaire de son gouvernement. La vérité n'entre pas dans l'Église par l'intermédiaire de deux apôtres qui se sont exprimés à l'unisson sur cette question. Vous comprenez. Proverbe 26, verset 12. As-tu vu un homme qui se croit sage? Il y a plus d'espoir pour un insensé que pour lui. Si quelqu'un ne tient pas compte des corrections, ne cède pas à de nouveaux faits et connaissances, Dieu dit que c'est une pente très glissante. Il y a plus d'espoir pour un insensé que pour lui. Je ne parle pas de cet homme. C'était juste une anecdote qui aidait à illustrer mon propos. C'est juste plus général ici, Proverbe 26, 12. Nous ne pouvons pas être sages dans notre propre conception, sinon nous ne pouvons pas recevoir la connaissance de Dieu, cette connaissance transformatrice de Dieu, qui nous permettra de rechercher d'abord le royaume et sa justice. Matthieu chapitre 10. Matthieu 10. Nous en avons entendu parler récemment, mais cela mérite d'être répété ici. Matthieu 10. Il y a une certaine attitude que nous devons avoir lorsque nous abordons les choses de Dieu. Et ils lui amenèrent, verset 13, des petits enfants afin qu'il les touchât. Mais ses disciples les reprirent. Jésus, voyant cela, fut indigné, et leur dit, « Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Je veux dire, ces hommes étaient, quand on repense à certaines des choses qu'ils ont accomplies, ils ont réalisé de grandes choses, mais pouvez-vous imaginer un petit enfant qui veut courir vers quelqu'un pour le saluer et qui en est empêché? Non, non, reste là. Cet homme est trop important pour que tu lui parles. On se demande comment cela s'est passé. Les disciples ont réprimandé les parents. Comment osez-vous amener ces enfants à Christ? Je ne sais pas à quoi cela aurait ressemblé, mais nous pouvons nous amuser. Mais Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits enfants, ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Les enfants croient. Les enfants s'enthousiasment. Les enfants n'ont pas d'arrière-pensée. Et il les prit dans ses bras, posa les mains sur eux et les bénit. Nous devons avoir l'attitude d'un enfant, mais nous devons grandir. Revenons au proverbe. L'attitude d'un enfant, mais la perspicacité mentale d'un adulte. Proverbe, chapitre 9, verset 9. Donne l'instruction à un homme sage, et il deviendra encore plus sage. Enseigne à un homme juste, et il augmentera son savoir. La capacité d'apprendre est essentielle. Que nous soyons nouveaux ou que nous soyons ici depuis longtemps. Si nous sommes ici depuis longtemps, nous sommes probablement sages dans une certaine mesure. Si nous recevons des instructions, nous serons encore plus sages. Si nous sommes justes, si nous vivons selon la voie de Dieu, nous augmenterons notre savoir. C'est assez simple. Chapitre 12. Il y a des gens qui aiment la connaissance, qui veulent apprendre les choses de Dieu, et il y en a d'autres qui veulent s'accrocher à leurs vieilles idées et qui sont inflexibles. Celui qui aime l'instruction et aime la connaissance, mais celui qui est la réprimande est stupide. Si quelqu'un peut clairement se voir dire « tu devrais peut-être reconsidérer cela » ou « tu as tout simplement tort ». Voici pourquoi, quel que soit le degré de réprimande nécessaire, ils ne veulent pas entendre que Dieu dit qu'ils sont brutaux. Ils sont comme des animaux. Les animaux sont intelligents à certains égards, mais dans l'ensemble, ils sont stupides. Ils sont têtus. Ils sont brutaux. Nous recevons le royaume comme des enfants. Nous recevons cette connaissance avec l'attitude d'un enfant, mais nous ne restons pas des enfants. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 8. Nous étions dans Éphésiens tout à l'heure. Nous nous sommes arrêtés au verset 7, mais nous reprenons ici au verset 8. C'est pourquoi il dit, lorsqu'il est monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. Maintenant qu'il est monté, qu'est-ce que cela signifie, sinon qu'il est d'abord descendu dans les parties inférieures de la terre? Celui qui est descendu est aussi celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné à certains d'être apôtres, nous en avons un dans l'Église aujourd'hui, à certains d'être prophètes, à certains d'être évangélistes, à certains d'être pasteurs et enseignants. Or, toutes ces fonctions impliquent l'enseignement. Le ministère est là pour enseigner. C'est en partie pour cela que nous devons être disposés à apprendre. Nous devons écouter ce que dit le gouvernement de Dieu. Pourquoi? Afin de perfectionner les saints. Dieu utilise ces hommes pour nous enseigner certaines choses afin que nous puissions devenir parfaits. Il ne s'agit pas d'une superstructure autoritaire qui serait là uniquement pour nous dominer ou nous accabler. Non, Dieu a placé ce mécanisme extraordinaire dans son Église, ses fonctions ministérielles dans son Église pour le perfectionnement des saints. Pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Afin que nous ne soyons plus des enfants, oui, en conservant l'attitude d'un enfant, mais plus des enfants dans notre compréhension, ballottés et emportés à tout vent de doctrine, par la ruse des hommes, par leur habileté à tromper. Vous voyez là la ruse des hommes. Vous pensez à un tour de passe-passe, à un tour de magie, ou si vous êtes comme moi, je vois un tour de magie et je ne comprends pas nécessairement ce qui se passe. Mais je sais que c'est un tour. C'est incroyable. Cette carte va apparaître ici, ou quelque chose va apparemment changer de couleur sous mes yeux, et je sais que c'est physiquement impossible. Je comprends donc qu'il s'agit d'un tour de passe-passe. Cette personne est un magicien. Eh bien, il existe aussi des magiciens spirituels qui utilisent des arguments rusés et hauts, et qu'en est-il de ceci, et la plausibilité, comme nous l'avons entendu récemment. Des tours de passe-passe. Des fraudeurs. Par les ruses des hommes, et par leur astuce, avec laquelle ils tendent des pièges pour tromper, mais en disant la vérité dans l'amour, afin de croître sous tous les aspects en celui qui est le chef, c'est-à-dire Christ, dont tout le corps, bien coordonné et bien uni ensemble par toutes les articulations qui le soutiennent, selon le fonctionnement efficace de chaque partie, tire son accroissement pour s'édifier lui-même dans l'amour. Cela aurait tout aussi bien pu figurer dans la section consacrée au lien de la communion fraternelle. Mais il y a ici des enseignants pour enseigner à ceux qui sont disposés à apprendre. La parole de Dieu est un enseignant qui nous enseigne ce que nous devons apprendre, afin que nous puissions devenir comme lui et entrer dans son royaume. Nous n'irons pas là-bas, mais rappelons-nous l'histoire de Saül. Quand il était petit à ses propres yeux, quand il était comme un enfant, il pouvait être utilisé. Il était disposé à écouter. Mais il est devenu vieux, rebelle, têtu, pensant qu'il en savait plus que Samuel, décidant de faire les choses à sa manière plutôt que selon la voix de Dieu, contrairement à ce qu'on lui avait demandé de faire. Il en savait plus que l'Église de Dieu à l'époque. Et les conséquences ont été dévastatrices. La capacité d'apprentissage va de pair avec la malléabilité. Jérémie 18. Nous avons récemment vu Jérémie 18, mais examinons un peu le contexte. Jérémie 18. Jérémie 18, verset 1. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, en ces mots, « Lève-toi, et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur le tour. Si vous avez déjà observé un potier, vous savez qu'il utilise un tour. Autrefois, celui-ci était actionné à la main. Aujourd'hui, il est électrique, mais il s'agit toujours d'un tour sur lequel un potier expérimenté trempe sa main dans de l'eau, Ajoute de l'eau à la masse d'argile pour la rendre plus malléable, et, à mesure qu'elle tourne, lui donne une belle forme, celle d'un vase. Et le vase qu'il avait fait avec l'argile fut gâté dans la main du potier. Il en fit un autre vase, et il plut au potier de le faire. S'il y a une imperfection, vous pouvez simplement utiliser l'argile et faire autre chose. Alors la parole du Seigneur me fut adressée, en ces termes, « Maison d'Israël, ne puis-je pas agir avec vous comme ce potier ? Si je vois quelque chose qui ne va pas, n'ai-je pas le pouvoir, tout comme un potier, de créer un nouveau vase ? J'ai le pouvoir de vous transformer et de vous remodeler. Maintenant, il nous façonne. Nous sommes des vases dans cette vie. » Cela fait référence au grand Israël, mais nous sommes tous façonnés à la main dans cette vie. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Au moment où je parle. Et voici ce que nous avons lu récemment, au verset 7. Mais réfléchissez-y. Nous sommes de l'argile entre les mains de Dieu. Je n'ai pas beaucoup travaillé avec l'argile. J'ai fabriqué quelques pots en argile à l'école et ailleurs, mais en gros, vous travaillez avec quelque chose qui, s'il n'est pas malléable, est inutile. J'ai beaucoup travaillé avec du ciment et du mortier. Et avec le mortier, par exemple, tant qu'il est humide, vous pouvez le travailler. Vous pouvez le modeler. Mais à un moment donné, il sèche. Et si votre création n'est pas terminée avant qu'il ne sèche, elle devient inutile. Vous devez la jeter. Son utilité réside dans sa flexibilité, dans sa malléabilité, dans la capacité du fabricant, du créateur dans le cas présent, à pouvoir le travailler. S'il se rigidifie et veut faire ce qu'il veut, pour ainsi dire, c'est une analogie, il faut le jeter. Dieu veut que nous soyons dociles afin qu'il puisse nous modeler, afin qu'il puisse nous créer à son image. Nous ne sommes pas seulement créés à l'image physique de Dieu. Il veut également nous créer à son image spirituelle. Une autre chose sur laquelle il est crucial de se concentrer lorsque vous entrez pour la première fois dans l'Église de Dieu, lorsque nous entrons pour la première fois dans l'Église de Dieu. J'ai commis une erreur à ce sujet, et cela a été difficile. Les finances. Nous avons récemment entendu un sermon très complet sur les finances, je ne m'étendrai donc pas sur ce sujet. Mais nous sommes partisans de la dîme. Nous comprenons la dîme lorsque nous entrons dans l'Église. Mais parfois, nous ne nous concentrons pas nécessairement sur la deuxième dîme. Et j'ai appris cela à mes dépens au cours de ma première année de fréquentation. En fait, je faisais partie d'une scission, pas de l'Église, mais d'une scission, d'une des organisations dispersées qui compte certainement des enfants de Dieu, qui respectent certainement certaines doctrines de Dieu, qui observent les jours saints, qui respectent la loi. Mais ce n'est qu'après plusieurs mois que j'ai compris que je devais mettre de côté une sorte de deuxième dîme pour la fête. Je suis arrivé à ma première fête des tabernacles avec, je crois, $600 en poche. Heureusement, mon père a eu la gentillesse de me conduire de Virginie en Pennsylvanie. Mais je n'avais, encore une fois, que $600 pour toute la durée de la fête. Et j'insistais pour essayer de le faire avec mon propre argent. C'était très important pour moi. C'était ma première fête des tabernacles. Une expérience merveilleuse. J'ai hâte de revoir certaines de ces personnes après notre retour, certaines des personnes les plus merveilleuses que j'ai rencontrées. Elles ne s'accrochent pas à certaines choses et sont confuses sur d'autres. Je les aime profondément. Mais je ne pouvais pas rester sur place. J'ai dû trouver le motel le moins cher possible, en bas de la route où tous les autres frères étaient logés. Je mangeais tous les jours dans le même petit restaurant. Juste la nourriture la moins chère que je pouvais trouver. Il m'est arrivé de faire des folies. Et mon père m'a aidé à certains égards. J'aimerais pouvoir dire que j'ai réussi à faire durer ces $600 pendant toute la durée de la fête. C'est un bon père. Mais ce n'était certainement pas l'expérience que j'aurais pu vivre si j'avais économisé la deuxième dîme au même rythme que je donnais la première. Il est très important de prendre cela en considération. Car, mes frères, si vous n'êtes pas encore allés à la fête des tabernacles, nous ne prévoyons pas d'y aller dans notre configuration actuelle. Nous célébrerons la fête, mais dans des circonstances très différentes. Mais si vous n'avez jamais assisté à la fête, vous pouvez penser que vous la comprenez. Vous pouvez l'attendre avec impatience. Vous pouvez en parler à d'autres frères. Mais tant que vous n'y êtes pas allé, vous ne réalisez pas à quel point c'est spécial. Vous ne pouvez pas le croire tant que vous ne l'avez pas vécu. Mais ce qui rend cette fête spéciale, c'est que Dieu dit « Je vous aime tellement que je vais vous donner un dixième de vos revenus pour que vous puissiez aller profiter de cette fête spéciale que je vous ai donnée. Mais cela nécessite que nous économisions. Je ne vais pas m'étendre sur ce point, mais assurez-vous que nous économisons la deuxième dîme. Une autre chose que nous disons aux gens, et nous n'avons pas besoin de passer beaucoup de temps là-dessus, c'est que vous entrez dans l'Église de Dieu à un moment extraordinaire, à un moment où nous comprenons des choses que nous n'avons jamais comprises auparavant. Nous sommes au milieu d'une longue série, et vous vous sentirez un peu dépassé si vous essayez de rattraper votre retard, pour ainsi dire. Commencez simplement là où vous en êtes. Posez des questions si nécessaire, mais n'essayez pas de rattraper votre retard avec la première partie d'une série de 618 parties. Vous serez dépassé. Concentrez-vous sur ce que vous entendez prophétiquement, mais concentrez-vous également sur les bases. Première épître aux Corinthiens, chapitre 13. Personne ne comprend ce que nous faisons. Ce n'est que dans cette Église que nous apprenons le plan prophétique que Dieu a pour toute l'humanité. Seulement dans cette Église. Vous ne l'avez pas entendu dans le monde avant de venir dans cette Église. Vous ne l'entendez pas dans les sectes avant de venir dans cette Église. Vous ne l'avez même pas entendu dans le monde entier. Parce que Dieu fait quelque chose d'unique ici même, à la fin, alors qu'il prépare un groupe spécial de personnes pour aider les autres. Première épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, l'amour, je suis comme un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, que je connaîtrai tous les mystères et toute la science, quand j'aurai toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Nous n'avons pas besoin d'avoir une compréhension parfaite de la prophétie pour aller de l'avant. Ne vous découragez pas. C'est le seul point important de cette section. Soyez reconnaissants pour ce que nous apprenons. Laissez-vous inspirer par ce que nous apprenons. Faites de votre mieux pour comprendre ce que nous apprenons, mais ne vous découragez pas si vous ne le comprenez pas parfaitement. Même ceux qui sont ici depuis le premier jour, moi y compris, ne comprennent pas parfaitement la prophétie. Et ce n'est pas seulement mon opinion. Verset 12. Aujourd'hui, nous voyons à travers un miroir, de manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Continuez à enrichir vos connaissances, mais ne pensez pas que vous pouvez ingurgiter 618 sermons de plusieurs heures au dernier moment. Vous serez submergé. Vous serez distrait. Concentrez-vous, par exemple, sur le baptême et savourez les connaissances que vous recevez, Les connaissances prophétiques que vous recevez. Posez des questions sur les connaissances prophétiques que vous recevez. Mais ne vous découragez pas si vous ne maîtrisez pas parfaitement l'ensemble des connaissances prophétiques après être entré dans l'Église de Dieu. J'espère que cela vous détendra dans un certain sens. La prochaine chose que je vous encourage à considérer m'aurait aidé. Une autre histoire à raconter sur moi-même. Appuyez-vous sur votre ministre. Appuyez-vous sur votre ministre. Il est là pour vous aider. Il est là pour vous guider. Il est là pour vous aider à naviguer dans les eaux difficiles. Je fais un petit détour ici, mais tournez à l'Exode 35. J'ai lu cela au début, quand j'ai été appelé. Exode 35, verset 1. Moïse rassembla toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit, « Voici les paroles que l'Éternel a ordonnées, afin que vous les mettiez en pratique. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous un jour saint, un sabbat de repos consacré à l'Éternel. Quiconque fera un travail ce jour-là sera puni de mort. Vous n'allumerez point de feu dans aucune de vos habitations le jour du sabbat. » Eh bien, voilà, me suis-je dit. On ne peut pas allumer de feu le jour du sabbat. La belle affaire. On vous tuera, dit-il. Vous serez mis à mort si vous allumez un feu le jour du sabbat. C'est ainsi que s'est déroulée l'une des pires expériences du début de ma vocation. J'aurais pu lire, par exemple, dans Comment faire du sabbat un délice. J'aurais pu lire. Il était question d'incendie industriel, d'incendie métallurgique ou d'incendie de poubelle, peu importe. Il s'agissait d'incendie industriel. J'aurais pu me renseigner à ce sujet plutôt que de me gratter la tête. C'est drôle. Les gens chauffent leur maison au bois depuis des milliers d'années. Dieu s'attendrait-il vraiment à ce que vous ayez froid le jour du sabbat si vous n'aviez pas, par exemple, le chauffage central dans les années 1700? Non, non. C'est assez clair. Si vous allumez un feu le jour du sabbat, vous serez tué. Il y a donc eu un soir en particulier où, encore aujourd'hui, je regrette la façon dont les choses se sont passées. C'était vendredi soir. Le sabbat était arrivé. Mon père venait de subir une opération chirurgicale, il avait des points de suture à la jambe ou quelque chose comme cela, et il était allongé près du feu, recouvert d'une couverture, pour se réchauffer et se remettre. Il m'a dit, « Mon fils, peux-tu ajouter une bûche dans le feu, s'il te plaît ?» Mais les bûches n'étaient même pas à l'intérieur. Elles étaient dehors. J'ai dû lui dire, « Papa, je ne peux pas allumer un feu le jour du sabbat. C'est le sabbat. Je peux te le montrer dans l'Exode, chapitre 35. Si tu veux voir, je ne peux pas le faire. » Et il m'a expliqué ce que toute personne logique aurait expliqué. Tu commences juste à te réchauffer. Ce n'est pas grave. Il comprenait mieux cela que moi. J'ai répondu, non. Je ne vais pas le faire. Et la situation a dégénéré au point où mon père arrachait la couverture qui le recouvrait, alors qu'il était en sous-vêtements, et sortit pieds nus dans la neige avec ses points de suture, a ramassé du bois, est revenu, l'a jeté dans le feu, s'est recouché et s'est recouvert. Et je peux vous dire que l'ambiance est restée tendue pendant un certain temps après cela. Je n'ai pas suscité beaucoup de sympathie avec cette nouvelle expérience religieuse. Ce n'était pas bon. Mais j'aurais pu éviter les ennuis si j'avais simplement pensé, tu sais quoi? Je vais me renseigner davantage. Je vais me renseigner davantage. Appuyez-vous sur les ministres, mes frères. Appuyez-vous sur la littérature. Si quelque chose ne vous semble pas clair, posez des questions. Renseignez-vous. Nous ne savons pas tout. Je ne savais pas tout, comme le prouve clairement cette histoire et une centaine d'autres que je pourrais vous raconter. Et cela nous amène au point suivant. Nous manquons de temps ici, mais le point suivant recoupe largement le précédent. Soyez prudent avec votre famille, mes frères. Soyez prudent. Ils pourraient vous suivre. Ils pourraient être intéressés par ce que vous leur dites au sujet du royaume de Dieu. Ils pourraient être intéressés par ce que vous leur dites au sujet du jour du sabbat et des viandes pures et impures. Vous êtes très enthousiaste. Vous avez tendance à parler, et ils peuvent donner l'impression d'écouter attentivement. Mais une autre histoire me vient à l'esprit. Je me souviens, comme si c'était hier, être entré dans la cuisine et avoir entendu mon frère parler à mon père, essayant de le monter contre moi. Il a dit, « Papa, tu te rends compte qu'il pense qu'il va devenir Dieu et régner sur l'univers ? Tu t'en rends compte, n'est-ce pas ?» Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais jeté des perles au cochon. Je ne traite pas mon frère de porc. Mais Dieu dit que ces vérités sont pour nous, mes frères. Il travaille avec nous. Notre famille comprendra bientôt ce genre de choses. Elle aura bientôt l'occasion d'entrer dans la famille de Dieu, mais pour l'instant, ce genre de choses est provocateur. Pensez à Joseph et à ses frères. Laissez-moi vous raconter ce rêve que j'ai fait, dans lequel vous m'adorez tous. Cela ne s'est pas bien passé, et cela ne se passe pas bien pour nous non plus. Même si notre famille se montre gracieuse et généreuse à ce sujet, vous devez faire preuve de discrétion. Je ne dis pas que nous devons rester complètement muets. Mais Christ a dit dans Matthieu chapitre 7, nous devrions peut-être aller voir là-bas, chapitre 7. Le premier sermon que j'ai donné portait sur le fait de jeter des perles au cochon. Matthieu chapitre 7, verset 6, ne donnez pas ce qui est saint aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent et ne se retournent pour vous déchirer. Dieu ne traite pas les membres de notre famille de porcs ou de chiens. C'est une analogie. Un cochon ne peut pas apprécier une perle. Si Dieu n'ouvre pas l'esprit de quelqu'un à la connaissance de quelque chose d'aussi extraordinaire et qui change autant la vie que le sabbat pour nous, oh là là, cela fait tout ce temps le septième jour, et nous considérons Dieu comme notre Créateur. C'est incroyable. Nous pouvons aller au culte parmi d'autres personnes. Elles n'ont pas la même perception, non pas parce qu'elles sont en faute, mais simplement parce que cela ne leur a pas été donné. Ils n'ont pas cette perle de grand prix que nous avons. Et nous pouvons en fait leur faire du mal si nous essayons de leur imposer cela de force et nous faire du mal à nous-mêmes. Les cochons sont très dangereux. Encore une fois, je ne traite pas notre famille de cochons. Quand ils chassent avec des cochons dans le sud, ils équipent parfois les chiens de vestes en kevlar parce que ces sangliers sont tellement dangereux. Des animaux incroyablement dangereux, sauvages, imprévisibles, vicieux. Il est très, très rare d'être appelé. Ce n'est pas notre travail de convertir nos collègues, nos connaissances. Efforcez-vous de vivre en paix avec tous les hommes, et parfois cela implique simplement de laisser briller votre lumière, de laisser briller notre lumière, sans essayer d'être Apollo dans la salle à manger, quelle que soit la forme que prendrait cette. Si quelqu'un a une question, il la posera. Soyez toujours prêt à répondre à ceux qui vous demandent raison de l'espérance qui est en vous, a dit Pierre. L'une de mes histoires préférées dans l'Église est celle d'un homme, il sait qui il est, et probablement ceux de sa congrégation savent qui il est. L'une de mes histoires préférées est celle d'un homme qui tondait la pelouse d'une dame, et elle lui a finalement demandé ce qu'il croyait. Je ne sais pas comment cela s'est passé. Et maintenant, elle est membre baptisée de l'Église de Dieu. Son exemple a conduit à ce qu'on lui demande ce qu'il croyait, et quelqu'un d'autre s'est mis sur le chemin de Dieu. Je ne sais pas comment cette conversation s'est déroulée exactement, mais je peux vous garantir qu'elle n'a pas commencé par « Eh bien, laissez-moi vous parler du royaume de Dieu. Vous avez 5 minutes. » Non. Il y a eu une évolution naturelle des événements qui a conduit cette femme à demander à cet homme ce qu'il croyait, et il était prêt à répondre, et il y a maintenant une personne de plus dans l'église de Dieu. Il en va de même pour moi. J'ai posé une question à quelqu'un. Ce n'était pas sur Internet ou quoi que ce soit de ce genre. J'ai posé une question à quelqu'un, et sa connaissance des Écritures, sa gentillesse et son amabilité ont été utilisées par Dieu pour m'amener ici. Si nous avions plus de temps, j'expliquerai comment nous conseillons aux gens que le diable essaiera de les éloigner de cette organisation. C'est le groupe le plus exclusif sur Terre, non pas parce que nous sommes plus importants que quiconque dans un certain sens, mais à cause de ce que Dieu va nous utiliser pour faire, à cause de ce que Dieu nous forme à faire. Et le diable déteste le fait que vous et moi allons entrer dans la famille de Dieu. Le diable déteste le fait que vous et moi allons être enseignés ou allons enseigner aux autres la voie de Dieu. Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, a dit Pierre. Nous devons permettre que cela se produise. Cela ne se produira pas involontairement. Soyez simplement très prudents. Nous devons tous être très prudents, peu importe depuis combien de temps nous sommes dans l'Église. Le diable peut utiliser ceux qui sont les plus proches de nous, ceux que nous aimons, comme moyen de pression pour nous éloigner du chemin de Dieu. C'est un phénomène très réel. Les gens continuent régulièrement à être la proie du diable à cet égard. Le diable veut que vous écoutiez ses agents, qu'ils soient sur Internet ou qu'ils soient des enfants désobéissants au travail qui veulent vous dire ce qu'est vraiment le christianisme. N'écoutez pas cette secte. Écoutez-moi. Les trompeurs abondent, mes frères. Les trompeurs abondent. Nous ne pouvons pas nous laisser prendre par le monde. Nous ne pouvons pas nous laisser prendre par la mentalité de victime. Oh, j'ai telle ou telle épreuve. J'ai besoin de plus d'argent. Je dois travailler le jour du sabbat. Le diable s'en prendra à vous, s'en prendra à moi sous tous les angles imaginables. Il a passé 6 000 ans à tromper l'humanité pour perfectionner son art, et il est plus intelligent que vous ou moi, bien plus intelligent que vous ou moi. Nous devons nous appuyer sur ce que Dieu dit dans sa parole. Nous devons nous rapprocher de Dieu. Nous devons, et c'est le point final, nous rapprocher de Dieu et rester proches de lui. Jacques, chapitre 4. Quoi qu'il arrive, quoi que le diable nous lance, quelles que soient les circonstances de la vie, notre défense, notre chemin sûr vers ce royaume, vers la nouvelle naissance, c'est de nous rapprocher de Dieu et de rester proches de lui. Jacques chapitre 4, verset 7, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, hommes à l'esprit partagé. Nous comprenons qu'il existe 5 outils pour la croissance chrétienne, la prière, l'étude de la Bible, la méditation, le jeûne lorsque cela est nécessaire et l'exercice de l'esprit. Si nous n'avons pas encore l'esprit, il œuvre en nous. Demandons à Dieu qu'il œuvre plus fortement en nous. Si nous l'avons déjà, demandons-le. Nous avons récemment lu Luc 11 dans un sermon où Christ expliquait que si un enfant affamé demande du pain à son père, celui-ci ne lui donnera pas un scorpion, ou s'il lui demande un œuf, il ne lui donnera pas un serpent. Je ne me souviens pas exactement de la formulation, mais elle est valable. Puis Christ explique, Eh bien, si vous demandez à votre Père le Saint-Esprit, N'est-il pas d'autant plus disposé à vous le donner que la nourriture qu'un enfant affamé recevrait de son père? Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous, a dit Jacques. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, c'est s'approcher de Dieu. C'est la poursuite même de notre objectif qui nous protégera. Se concentrer correctement sur Dieu et sa voie, se concentrer correctement sur l'utilisation de ces outils lorsque nous entrons dans l'Église de Dieu, ce sont là les mêmes concentrations et les mêmes outils qui nous maintiendront en vie pendant des décennies dans la voie de Dieu. Ce sont les mêmes tactiques et les mêmes outils qui nous permettront de passer du statut d'enfant engendré de Dieu à celui d'enfant né de Dieu. Mes frères, si vous êtes nouveaux dans l'Église de Dieu, saisissez ces leçons. Accrochez-vous à elles. Elles ne sont en aucun cas exhaustives, mais elles constituent une assez bonne liste à laquelle s'accrocher. Accrochez-vous à elles. Et si nous suivons la voie de Dieu depuis longtemps, ne les lâchez jamais. Bientôt, cette quête du royaume de Dieu se concrétisera, mais en attendant, nous sommes faits de chair et de sang. Saisissons et utilisons ces leçons.